Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui touche pas mal d'entrepreneurs français, je crois. Comment faire face à la pression fiscale, aux défis économiques ici?
Oui, c'est vrai que beaucoup regardent ailleurs.
Exactement. Et souvent vers l'Est. Deux pays de l'UE reviennent tout le temps. La Bulgarie et la Roumanie.
C'est ça.
Donc l'idée, c'est vraiment de décortiquer ça avec les chiffres les plus récents, 2024, les projections 2025, pour essayer de voir quel pays colle le mieux à quel type de projet.
Tout à fait.
Parce que c'est pas juste une question de chiffres, hein, c'est une vraie décision stratégique.
Ah mais complètement, c'est crucial d'aller au-delà de la simple comparaison de taux, comme vous disiez. Choisir entre Sofia ou Bucarest, c'est un choix qui impacte le long terme.
Oui.
On parle de la structure, du fonctionnement au quotidien, des perspectives. Bref, l'objectif ici, c'est vraiment d'apporter un éclairage factuel, nuancé, basé sur les infos qu'on a.
Parfait. Alors, allons-y. Le premier truc qui saute aux yeux, c'est la fiscalité des boîtes, forcément.
Le nerf de la guerre.
Voilà. Et les sources semblent donner un avantage assez clair à la Bulgarie, de prime abord. C'est quoi exactement?
C'est vraiment leur argument massue. L'impôt sur les sociétés est à 10%.
10%?
Oui, c'est le plus bas de toute l'Union européenne. Et surtout, ce qui est remarquable, c'est sa stabilité. Il n'a pas bougé depuis 2008.
Ah oui, 2008, quand même.
Voilà. Et ça, pour la visibilité à long terme, c'est un atout énorme. En face, la Roumanie, son taux standard, c'est 16%.
16, donc 6 points d'écart, c'est pas rien. Mais alors, la Roumanie, elle n'a pas une botte secrète, un truc qui ferait que ça pourrait quand même être intéressant malgré ces 16%.
Si, si, tout à fait. La Roumanie a un régime alternatif, celui de la micro-entreprise. Et là, ça peut vraiment changer la donne pour certains profils.
Ah, c'est-à-dire?
Ben, avec ce régime, on n'est pas imposé sur le bénéfice, mais sur le chiffre d'affaires.
Sur le CA directement.
Exactement. C'est 1% si le CA est sous les 60 000 euros par an et qu'on a au moins un salarié.
D'accord.
Ou alors 3% si le CA est sous 250 000 euros, mais sans salarié obligatoire ou pour certaines activités spécifiques.
Ok, donc le calcul est complètement différent.
Ah oui, rien à voir. La Bulgarie, avec ses 10% sur le bénéfice, elle avantage clairement les boîtes qui ont une grosse marge, une forte rentabilité.
Logique.
La Roumanie, avec son régime micro à 1 ou 3% sur le chiffre d'affaires, ben elle peut être hyper attractive pour des business qui font beaucoup de volume mais avec des marges plus faibles. Ou alors au démarrage.
Oui, au début, ça peut aider.
C'est ça qui est fascinant, c'est de voir comment ces deux approches fiscales dessinent des profils d'entreprises cibles assez différents finalement.
C'est une distinction super importante, ça. Bénéfice contre chiffre d'affaires. Et l'étape d'après pour l'entrepreneur, souvent, c'est de sortir l'argent via les dividendes. Comment ça se passe de ce côté-là?
Alors là aussi, avantage Bulgarie.
Encore?
Oui, les dividendes qui sortent d'une société bulgare, c'est 5% de retenue à la source.
5%.
Voilà. En Roumanie, attention, ils sont passés à 8% depuis janvier 2025.
Ah oui, c'est récent ça.
Tout récent. Et cette différence de 3 points, bon, ça peut paraître peu, mais si on prévoit de se verser des dividendes régulièrement,
Sur le long terme, ça chiffre.
exactement. C'est une économie structurelle non négligeable. Ça joue directement sur la stratégie de rémunération, de capitalisation.
Et il y a un autre truc qui simplifie la vie en Bulgarie, d'après les sources, cette fameuse flat tax.
Ah oui, la flat tax à 10%.
Elle s'applique pas qu'aux sociétés, c'est ça? Mais aussi aux revenus des personnes.
Tout à fait. C'est 10% pour les sociétés et 10% pour les revenus des particuliers. C'est une simplicité, une cohérence fiscale globale qui est, ben, c'est un argument de plus pour la Bulgarie, c'est clair. Ça facilite la planification pro et perso.
D'accord, très clair sur la fiscalité. Bon, les taux, c'est une chose, mais si on se décide, concrètement, c'est la galère pour monter sa boîte là-bas ou c'est simple? Qu'est-ce qu'on sait sur la création d'entreprise?
Question essentielle, oui. Et là, disons que le match est un peu plus serré. C'est plus nuancé.
D'accord.
Pour les DRE, par exemple. En Bulgarie, l'immatriculation de la société elle-même, c'est assez rapide. On parle d'une semaine environ.
Une semaine, pas mal.
Oui, mais attention, le numéro de TVA intracommunautaire, qui est indispensable pour bosser en Europe,
Oui, crucial ça.
eh bien là, ça peut prendre plus de temps. On a des retours de 2024 qui parlent de jusqu'à 5 semaines.
Ah oui, quand même. Et la Roumanie?
En Roumanie, la fourchette annoncée, c'était plutôt entre 2 et 5 semaines. Bon, il faut savoir qu'ils ont eu quelques ralentissements début 2025, une mise à jour du registre du commerce qui a un peu tout bloqué.
D'accord.
Mais apparemment, ça revient à la normale. On serait plutôt autour de 2 semaines pour avoir le package complet maintenant.
2 semaines contre 1 à 5, au final, c'est assez proche, quoi.
Oui, les délais se tiennent. Par contre, il y a une différence qui est plus symbolique mais intéressante, c'est le capital social minimum.
Ah oui, j'ai vu ça. C'est quoi?
En Bulgarie, il suffit d'apporter 1 euro.
1 euro. Merde.
Oui, 2 leva, c'est symbolique. Alors qu'en Roumanie, le minimum, c'est 40 euros, 200 lei.
40 euros, bon, ça reste très faible aussi.
Oui, c'est sûr. Mais ce seuil à 1 euro en Bulgarie, ça envoie un message, hein, un message de simplification extrême, d'ouverture maximale pour attirer les créateurs.
C'est clair. Et niveau budget total pour la création, avec tous les frais, notaire, accompagnement, etc., on est sur quoi?
Là, c'est assez similaire. Il faut compter une enveloppe, disons, entre 800 et 1500 euros dans les deux pays.
Ok.
Ça couvre en général les frais de notaire, l'enregistrement, les traductions obligatoires, et puis l'accompagnement par un cabinet sur place, qui est quand même conseillé.
Oui, il vaut mieux être aidé.
Vu que les prix sont proches, le conseil, c'est plutôt de choisir son accompagnateur sur la qualité, la réactivité, l'expertise, plutôt que de chercher le moins cher à tout prix.
Logique. Au-delà des sous et des délais, est-ce qu'il y a des différences dans les démarches elles-mêmes? Des contraintes particulières?
Oui, et ça, c'est un point important parce que ça touche à l'organisation pratique de l'entrepreneur. La Bulgarie, par exemple, semble demander plus souvent une présence physique.
Ah bon? Pourquoi faire?
Notamment pour une étape clé, l'ouverture du compte bancaire pro. Les banques bulgares sont aussi réputées pour être plus regardantes sur ce qu'on appelle la substance économique.
La substance économique, c'est-à-dire?
Ben, la preuve qu'il y a une vraie activité, des liens réels avec le pays. Pas juste une boîte aux lettres.
D'accord.
La Roumanie, d'après les retours, offrirait un peu plus de souplesse pour faire certaines démarches à distance.
Alors donc ça peut jouer selon comment on compte travailler.
Exactement. Est-ce que le modèle de l'entreprise est compatible avec des déplacements, avec le besoin de montrer patte blanche sur la substance? C'est une vraie question stratégique.
C'est pas anodin, effectivement. Et un autre point pratique qui revient souvent, l'adresse. Il faut une vraie adresse.
Ah oui, ça, c'est fini l'époque des simples domiciliations virtuelles. Dans les deux pays, les autorités veulent une adresse de siège social physique, réelle, vérifiable.
Donc, faut prévoir un budget pour ça.
Oui, c'est un coût récurrent à intégrer au business plan. En général, il faut compter entre 1 200 et 2 400 euros par an pour une domiciliation sérieuse, qui inclut souvent la gestion du courrier, parfois d'autres services.
Bon, ok. Une fois que la boîte est créée, sur le papier, il faut choisir la bonne structure juridique. J'imagine que ça aussi, ça a son importance, hein.
C'est fondamental pour la suite, pour la flexibilité et les responsabilités. En Bulgarie, il y a deux formes qui dominent pour les étrangers.
Lesquelles?
Les EOD, qui est l'équivalent de notre ERL française, donc pour un associé unique,
D'accord.
et l'OAUD, qui est comme notre SARL, pour plusieurs associés. L'avantage principal, c'est la responsabilité limitée aux apports, bien sûr.
Et laquelle est la plus courante?
L'OAUD est très populaire, surtout pour sa simplicité. L'associé unique peut aussi être le gérant. La compta est simplifiée si on fait moins d'un certain chiffre d'affaires, environ 1 million d'euros. Et surtout, le gérant peut être non résident. Ça, c'est un atout majeur si on pilote depuis la France, par exemple.
Très intéressant ça. Et en Roumanie, c'est quoi la structure star?
Alors là, sans hésitation, c'est la SRL. Societate cui respondere limitata.
L'équivalent de la SARL.
Exactement. D'après les chiffres de 2024, ça représente 85% des créations.
Ah oui, énorme.
Elle est très souple. On peut aller jusqu'à 50 associés. Les statuts sont assez libres pour la répartition du capital, qui peut d'ailleurs être symbolique, genre 1 leu, c'est 20 centimes d'euros. C'est vraiment la structure passe-partout là-bas.
On a parlé de la substance économique pour les banques en Bulgarie. Est-ce qu'il y a des obligations légales de substance pour la société elle-même ou de résidence? Est-ce qu'on peut vraiment tout gérer à distance?
Légalement, oui. La gestion à distance est possible dans les deux pays. Il n'y a pas d'obligation pour les associés ou les gérants d'habiter sur place.
D'accord.
Mais on revient à cette notion de substance, surtout en Bulgarie. Pour éviter les problèmes avec le fisc, ou même juste pour avoir de bonnes relations avec l'administration, les banques, il est souvent conseillé d'avoir des preuves d'activité réelle.
Genre.
Ben, avoir des employés locaux, même à temps partiel, avoir un petit bureau, pas forcément grand, des contrats signés localement, des choses qui montrent que la boîte existe vraiment sur place.
Et la Roumanie est plus souple là-dessus.
Elle semble l'être un peu plus, d'après les retours. Surtout pour des activités comme les holdings ou les prestations de services intellectuels purs, qui, par nature, n'ont pas besoin de beaucoup d'infrastructures physiques.
Ok. Et il faut aussi parler des changements récents en Roumanie, non? Ça a un peu bougé pour certaines structures.
Oui, tout à fait. Le gouvernement roumain a durci les règles pour accéder au fameux régime micro-entreprise.
Ah, celui à 1 ou 3% sur le CA.
C'est ça. Maintenant, pour avoir le taux à 1%, il faut obligatoirement avoir au moins un salarié à temps plein.
D'accord, ça change la donne pour un indépendant solo.
Exactement. Et autre chose, si l'activité principale c'est du conseil ou du management, cette partie ne doit pas dépasser 20% du chiffre d'affaires total pour rester dans le régime micro.
Ok, il cible certaines activités.
Et enfin, un même associé ne peut être majoritaire que dans une seule micro-entreprise.
Ah oui, pour éviter les montages, j'imagine.
L'objectif affiché, c'est ça. Limiter les abus, s'assurer que ça profite aux vraies PME. Mais la conséquence directe, c'est que ça complique les choses. Un consultant qui visait le 1 ou 3%, il se retrouve face à un choix. Soit il embauche quelqu'un, peut-être plus tôt que prévu.
Ce qui n'était pas dans le plan.
Soit il bascule beaucoup plus vite vers le taux normal de 16%. Et là, financièrement, c'est plus du tout la même histoire que ce qu'il avait calculé au départ.
C'est une complexification importante à avoir en tête, oui. Par contre, un avantage commun aux deux, c'est l'Europe. Pour le commerce rang, la TVA intracommunautaire.
Ah oui, absolument. Ça, c'est la base. Comme ce sont des pays membres de l'UE, obtenir un numéro de TVA intracommunautaire, c'est une formalité quasi automatique à la création.
Et c'est essentiel.
Fondamental pour facturer sans TVA d'autres entreprises dans l'UE, que ce soit des biens ou des services. Ça simplifie énormément les échanges et la paperasse.
Très bien. Alors, si on prend un peu de recul maintenant, au-delà du fiscal et de l'administratif pur, c'est quoi les atouts stratégiques plus larges de chaque pays? Qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre?
Alors, la Bulgarie, elle joue beaucoup la carte de la stabilité, on l'a dit, et de la prévisibilité. Pas juste fiscale, mais administrative aussi. Et son autre gros argument, ce sont les coûts opérationnels.
Les coûts, c'est-à-dire?
Les salaires, par exemple. Pour des cadres qualifiés, on parle de moyenne entre 800 et 1200 euros par mois.
Ah oui, c'est bas par rapport à la France.
Clairement. Les charges sociales patronales sont aussi plus faibles, plafonnées autour de 32,8% contre 47% chez nous. Et l'immobilier d'entreprise est très compétitif.
Donc intéressant pour des boîtes qui ont besoin de main-d'œuvre ou de locaux.
Exactement. C'est un terrain très attractif pour les entreprises qui ont besoin de personnel ou d'infrastructures physiques. Sa position géographique est aussi un atout. C'est un peu un hub vers les Balkans, le Moyen-Orient.
Oui.
Et puis, même si ça traîne un peu, il y a toujours la perspective de l'adoption de l'euro. Pour les investisseurs de la zone euro, ça enlève le risque de change, c'est rassurant.
Stabilité, coût bas, positionnement, ok pour la Bulgarie. Et la Roumanie, elle met quoi en avant en face ?
La Roumanie, elle joue une carte différente. Elle est beaucoup plus axée sur l'innovation, le numérique.
Ah, le côté tech.
Voilà. Le pays investit énormément dans son infrastructure digitale. Il soutient très activement le secteur tech. Il y a même des exonérations fiscales spécifiques pour les développeurs, pour certaines boîtes IT.
D'accord.
C'est un secteur qui pèse déjà 6% du PIB là-bas et qui est en pleine bourre. L'écosystème entrepreneurial est décrit comme très dynamique.
Ça bouge plus, quoi.
Vent qui cherche un environnement qui bouillonne un peu en croissance rapide.
La Roumanie peut être plus stimulante.
C'est ça, elle peut offrir un cadre très porteur.
Dynamisme contre stabilité, un peu. Et si on dit un mot de la qualité de vie, pour un entrepreneur qui irait s'installer même à mi-temps, Sofia, Bucarest.
Ce sont deux capitales européennes. La qualité de vie est agréable, les services sont là. Et le coût de la vie est bien sûr beaucoup plus bas que dans les grandes villes d'Europe de l'Ouest.
Des différences entre les deux ?
Bucarest est plus grande, souvent décrite comme plus animée. Plus de sorties, de culture. Sofia est plus compacte, très appréciée pour sa proximité avec la nature. On a les montagnes Vitocha juste à côté, pour le ski, la rando.
Pas mal ça. Et les infrastructures générales, transport, etc.
La Roumanie a un réseau d'autoroutes un peu plus développé et souvent plus de vols directs vers l'Europe. Mais la Bulgarie rattrape son retard, elle investit beaucoup avec les fonds européens pour moderniser ses routes, ses trains.
Et un point super important pour les Français, la double imposition. C'est réglé, ça.
Ah oui, point crucial. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, la France a signé des conventions fiscales avec les deux pays, Bulgarie et Roumanie.
Miser sans se faire matraquer deux fois.
C'est l'idée, surtout si on garde sa résidence fiscale en France, tout en gérant sa société là-bas. Ces conventions sont là pour clarifier les choses.
Parfait. Bon, on a vu beaucoup de choses. Si on essaye de synthétiser tout ça, j'ai l'impression que la Bulgarie sort quand même souvent comme l'option la plus simple, la plus avantageuse fiscalement dans l'ensemble, mais que la Roumanie a quand même ses cartes à jouer. C'est un peu ça ?
C'est une très bonne synthèse, oui. La force de la Bulgarie, c'est son package global. Le taux d'IS à 10% sur les bénéfices, c'est très fort pour les boîtes rentables. La stabilité de ce taux depuis 2008, ça rassure énormément. La simplicité de la flat tax perso, c'est un plus. Le capital en euros, ça facilite l'entrée.
C'est le choix de la sécurité, de la prévisibilité.
Exactement. C'est le choix de la prévisibilité et de l'optimisation fiscale pensée sur le long terme, avec en prime des coûts opérationnels bas.
Mais alors, dans quel cas la Roumanie reste une option vraiment sérieuse, voire même meilleure que la Bulgarie ?
La Roumanie, elle tire vraiment son épingle du jeu dans des scénarios assez précis. Premièrement, pour les boîtes qui peuvent vraiment profiter de son régime micro-entreprise.
Donc, c'est à bas au début ? Et les conditions ?
Et pour le toit à 1%, là, l'impôt sur le CA peut être dérisoire au début.
Un exemple ?
Ben, imaginez 200 000 euros de CA. Taxé à 3%, ça fait seulement 6 000 euros d'impôt.
Ah oui, c'est très peu.
C'est souvent imbattable au démarrage, même face aux 10% bulgares sur le bénéfice si la marge n'est pas énorme au début.
D'accord, donc ça, c'est un cas. D'autres ?
Deuxièmement, pour certaines activités spécifiques, dans les services, la tech, qui peuvent vraiment bénéficier de l'écosystème dynamique roumain, des aides éventuelles.
Le côté uptech ?
C'est ça. Et enfin, il peut y avoir des raisons moins fiscales. Un besoin particulier de main-d'œuvre qui parle français, historiquement plus facile à trouver en Roumanie. Ou une stratégie commerciale très tournée vers les marchés d'Europe centrale et de l'Est.
Mais il faut bien calculer son coût avec le régime micro.
Ah oui, impérativement. Il faut intégrer sa complexité croissante et surtout anticiper sa sortie. Parce qu'à un moment, on sort de ce régime favorable et on passe à 16%. Il faut que le business model tienne la route aussi à ce moment-là. Le choix dépend vraiment du modèle économique et des perspectives de croissance.
Donc, si on devait donner une recommandation stratégique finale, ça serait quoi exactement ?
En substance, la Bulgarie apparaît comme le choix de la raison pour une optimisation fiscale qui se veut durable, simple, prévisible. C'est particulièrement adapté si on vise une bonne rentabilité.
Et la Roumanie ?
La Roumanie, c'est une alternative à regarder de très près si le projet colle parfaitement au clou du régime micro, mais en étant bien conscient des contraintes et de son évolution, ou alors si l'accès au marché de l'Est est une priorité absolue, ou si on recherche cet environnement très dynamique, surtout dans la tech.
Ce qui est fonctionné au final, c'est que dans les deux cas, on a un cadre européen sécurisé et des impôts bien plus doux qu'en France.
Absolument.
Le succès, après, ça dépendra vraiment de l'adéquation entre le projet de l'entrepreneur et les spécificités de chaque pays. Voilà, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon comparatif Bulgarie-Roumanie pour 2025. Si on résume en deux mots, Bulgarie égale stabilité, simplicité, taux unique bas sur les bénéfices. Roumanie égale potentiel du régime micro, mais attention aux conditions, dynamisme éco-tech, mais plus complexe et un taux standard plus élevé.
Tout à fait. Et peut-être, pour ouvrir un peu la réflexion au-delà de notre discussion, il y a une question qui me semble importante.
Oui.
Au-delà des chiffres, des taux, des coûts directs, quelle est la valeur stratégique réelle de l'écosystème local ? Je parle de l'accès aux bonnes compétences, aux bons talents, de la force des réseaux d'affaires, du soutien qu'on peut trouver pour l'innovation, pour certains secteurs.
La partie plus immatérielle, quoi.
Exactement. Comment on évalue ça ? Comment on intègre efficacement cette dimension moins quantifiable dans la décision, alors qu'elle peut être déterminante pour réussir ou échouer sur le long terme ?
C'est une excellente question pour continuer à creuser. Merci beaucoup pour cette analyse très fouillée et merci à tous de nous avoir suivis.